Olivier Basile, bonjour.
Bonjour.
Olivier Basile, vous êtes donc le directeur général de Reporters sans frontières. Reporters sans frontières qui, comme beaucoup d'organisations, tant au sein de l'ONU mais également à l'extérieur, et on va en reparler, célèbre cette journée mondiale de la liberté de la presse. Alors, en deux mots pour votre organisation, qu'est-ce que ça représente cette journée?
Ah, écoutez, c'est en tout cas un rendez-vous qui nous permet chaque année de poser des bilans et des questions, des bilans sur l'année écoulée et sur le premier semestre en règle générale, et de donner à ce moment-là une perspective et des possibilités de recommandations pour faire en sorte que dans le semestre qui suit, les choses puissent changer. C'est l'occasion aussi de poser régulièrement tout un ensemble d'États que nous considérons comme prédateurs de la liberté de la presse, au nombre de 41 aujourd'hui, un certain nombre de questions quant à l'impunité qui règne sur l'assassinat des journalistes, quant au nombre de journalistes ou de cyber-dissidents ou de net citoyens qui sont toujours aujourd'hui à plus de 300, que font ces gens en prison dont le seul finalement crime est d'avoir écrit la plupart du temps sur des sujets de pure utilité publique. Encore une fois, comment expliquer les censures sur Internet, le nombre de médias attaqués, le nombre de journalistes tués. On y a déjà 21 journalistes tués depuis le début de l'année 2012. C'est un chiffre particulièrement inquiétant, à l'image du monde certes, mais particulièrement sanglant. Donc c'est l'occasion aussi de rendre hommage à tout un ensemble de maillons de l'information, qu'ils soient photographes, caméramans, qui sont aujourd'hui des gens qui payent le prix le plus lourd. Les gens d'image sont devenus des cibles pour bon nombre de régimes, et des cibles vivantes, s'entend des gens qu'on n'hésite pas à battre, qu'on n'hésite pas à viser, parce que l'image est devenue aujourd'hui la preuve incontestable. Le poids de l'image aujourd'hui, on l'a vu dans les printemps arabes, est immense, et donc les gens qui travaillent dans ce domaine prennent des risques de plus en plus importants pour nous apporter justement une information qui, au-delà de notre droit d'en disposer, nous permet aussi de poser tout un ensemble de choix, stratégies ou autres, sans lesquels nous ne pourrions rien faire. Donc le 3 mai, au-delà de ces bilans, de ces questions, au-delà de cet aspect Agipro, c'est aussi un hommage potentiel à tout un ensemble de gens qui prennent des risques à différents niveaux sur la quasi-totalité des continents. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui il y ait un paradis quelconque ou un continent sur le monde qui soit à l'abri de ça.
Alors justement, vous parliez d'États prédateurs, vous parliez de problèmes d'impunité. Est-ce qu'il y a quand même des régions, des États qu'il faut plus particulièrement montrer du doigt, ou est-ce qu'également les pays dits développés sont également, hélas, à mettre un index?
L'année 2012, si vous voulez, c'est comme très souvent, c'est une année de paradoxe. C'est une année avec des espoirs énormes, bien sûr. Donc les espoirs en Tunisie, l'espoir libyen, l'espoir birman aussi. Voilà un pays qui était véritablement un trou noir de l'information, qui s'ouvre et donc qui donne peut-être une perspective demain à ce qu'on y apporte quelque chose d'un peu neuf. Et puis vous avez la Syrie, cet État qui fait une guerre à l'information, une guerre vraie, physique, une guerre de censure, une guerre de pression, une guerre d'interdiction. Les printemps arabes égyptiens qui tout d'un coup est passé d'un espoir à pratiquement un statu quo sous Moubarak. Moubarak était un prédateur en chasse un autre avec une administration aujourd'hui qui a repris les choses en main. Vous avez le Bahreïn dans le Moyen-Orient qui est un pays où il se passe des choses énormes, d'une violence importante, sans spécialement que le scope médiatique puisse se déplacer dessus. Vous avez une violence énorme au Honduras, au Mexique, en Amérique latine. Vous avez des pays qui restent très très durs en matière de liberté de presse. Bien sûr, l'île cubaine, même si elle a moins de journalistes emprisonnés aujourd'hui, reste toujours un régime où la liberté de la presse est une notion qui semble continuer étrangement à déranger énormément. Mais vous avez des points noirs comme l'Érythrée, qui est véritablement à l'image de la Corée du Nord, des pays où la notion même de liberté de presse ne s'évalue même plus parce que l'idée même n'existe pas. Vous avez bien sûr l'Iran, vous avez bien sûr toute cette péninsule arabique, et puis dans le continent européen, cet énorme enjeu que constituent la Russie et ses pays limitrophes, que ce soit l'Asie centrale, que ce soit la Biélorussie, que ce soit l'Ukraine, qui sont demain nos possibles voisins et avec lesquels nous devons interagir. Or, la Russie est un pays en matière de liberté de la presse où il y en a, où vous êtes face à un régime où il n'y a pratiquement plus rien à part quelques résistances comme Novaya Gazeta et comme Moscou ou le magazine Dosh. Vous êtes face à un État qui a repris considérablement en main sa presse. L'Afrique équatoriale, avec des problèmes qui sont récurrents, avec là aussi une impunité sur la quasi-totalité des assassinats. Et puis le continent européen, l'Union européenne elle-même qui est en régression, en matière de liberté de l'information. On n'est pas du tout dans une dynamique. Les parlements nationaux vont plutôt au contraire vers des lois de plus en plus restrictives, que ce soit sur le droit de la presse ou que ce soit sur le droit de l'information ou sur l'Internet lui-même.
Justement, sur ces nouveaux médias, on parlait du printemps arabe, on parlait aussi des nouveaux médias, les fameux médias sociaux. Est-ce que là également, vous faites une sorte de comptabilité? Vous avez un baromètre de la liberté de la presse. Vous parliez justement tout à l'heure des 21 journalistes qui ont été tués depuis le début de l'année. Est-ce que vous prenez en compte aujourd'hui, au sens très très large, les différents acteurs de ce monde des médias?
Ah, tout à fait. Dans le baromètre, c'est ce depuis maintenant quelques années. Vous avez ce qu'on appelle les nets citoyens emprisonnés. C'est une tendance d'ailleurs qui est en train de rattraper. Alors, c'est malheureusement pas un concours, mais c'est un fait. Il fut tout un temps, vous étiez face à principalement des journalistes professionnels de radio dans les médias traditionnels qui étaient emprisonnés. Aujourd'hui, on est en passe d'avoir autant de journalistes, enfin de nets citoyens emprisonnés que de journalistes professionnels. C'est-à-dire que si vous voulez l'article 19 qui garantit à tout un chacun, donc l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux européens ou de la Déclaration universelle des droits de l'homme, garantit à tout un chacun le droit d'informer ou d'être informé ou de diffuser de l'information. Alors après, bon, on peut se poser beaucoup de questions sur la qualité, mais c'est un droit qui est écrit au singulier. Et l'Internet a remis ce droit dans les mains de chacun, avec les conséquences cependant pour tout un ensemble d'acteurs qui ont découvert que ça allait de pair avec tout un ensemble de pressions, de menaces et autres. Et en effet, ces indicateurs-là ont été créés au fur et à mesure de l'évolution. On a été la première association à disposer d'un desk consacré à l'Internet alors qu'il était balbutiant. Et aujourd'hui, cet enjeu-là devient énorme. Alors, il est énorme parce qu'on est face à des États qui se donnent les moyens techniques et humains d'abord de censurer l'Internet lui-même, en se donnant techniquement déjà. Et là, nous devons intervenir pour offrir à l'ensemble de ces populations des outils de contournement physique avec des logiciels, des clés USB, bref, capacité à utiliser une technologie pour faire en sorte de contourner techniquement cette censure-là. Le deuxième enjeu, c'est que si on n'y parvient pas, c'est d'au moins d'héberger, comme on pouvait le faire dans le passé lorsqu'on relayait des radios ou autres. Eh bien aujourd'hui, on héberge du contenu censuré sur Internet et on les héberge sur nos propres sites en le rendant accessible par les populations locales. Sinon, ça n'a que peu de sens que de le faire uniquement à la diaspora. Il faut absolument qu'elle rentre. Nous, on a fait une radio, par exemple, pour l'Érythrée. On la rend audible en Érythrée. Mais c'est un enjeu énorme à effectuer. On fait de même sur l'Internet. Et puis l'enjeu de demain, c'est aussi les réflexes dans les nouvelles générations de se dire on est dans une logique de partage sur l'Internet. On se valorise, les réseaux sociaux, c'est par définition, c'est le partage de l'information, certes, mais en même temps, les dangers de ce partage au niveau de la sécurité d'un certain nombre de gens, de sources ou de vecteurs d'information qui réalisent que le danger qu'il y a à trop partager, à le rendre trop public, parce que tout d'un coup vous avez des régimes qui, par cette voie-là, rentrent chez vous, vous arrêtent physiquement. Aujourd'hui en Syrie, par exemple, les gens sont torturés, pas spécialement pour révéler tout de suite les noms de gens qu'ils connaissent, mais plus exactement pour avoir leur mot de passe Skype ou leur mot de passe Facebook, et ainsi rentrer sur le profil des gens, faire croire qu'ils sont derrière, et derrière procéder à une vague d'arrestation beaucoup plus large. Donc la nature même de l'Internet est quelque chose d'extraordinaire qui a révolutionné considérablement les barrières de la censure, mais qui en même temps est en train d'en poser d'autres, qui est en train de... Les États ont réagi au niveau législatif, ont réagi au niveau technique et ont bien compris toute l'ampleur qu'il y avait, certains n'hésitant pas même à couper l'Internet, même si les coûts sont immenses. On a vu ça en Égypte, on a vu ça sur la Birmanie il y a quelques mois maintenant. Et donc, encore une fois, c'est devenu cette guerre est autant technique que juridique. Tout le monde a bien compris l'enjeu, en ce compris de la mobilophonie qui a joué aujourd'hui un rôle, alors c'est pas les révolutions 2.0, ce sont des gens qui ont fait la révolution, ils l'ont payé cher dans le sang, mais les moyens technologiques qui ont été mis à leur disposition et la manière dont ils ont su les utiliser ont certainement précipité les choses.
Dernière question justement, Olivier Basile, concernant les critiques qui parfois donc viennent des autres observateurs de la presse. Certains disent justement que, notamment par exemple, le baromètre de la liberté de la presse que vous faites figurer sur votre page internet, notamment, contribue un peu à une sorte de nombrilisme des médias, les médias ne parlant que des médias et ne parlant finalement que hiérarchisant le type de victime qu'il y a par rapport aux autres libertés dans le monde. Comment vous réagissez à ce genre de réflexion?
Oui, c'est un argument que je peux entendre au premier de premier abord, et ensuite je pense que si on explique, je pense que les gens peuvent comprendre. Moi, on n'a jamais dit, en tout cas moi je ne l'ai jamais dit, que la mort d'un journaliste, elle est plus dramatique que la mort de n'importe quel civil. Bien évidemment, en Syrie aujourd'hui, les morts se comptent malheureusement par centaines. Et la mort d'un journaliste, ou l'enlèvement d'un journaliste, ou la disparition d'un journaliste, elle n'est pas plus morale, elle n'est pas plus inquiétante que n'importe quel autre civil. Sauf que pour la société, les conséquences sont pas les mêmes. Le vecteur qu'il représente, la capacité d'action qu'il va pouvoir engendrer par son action d'information n'est pas du tout la même que n'importe quel civil. Encore une fois, derrière l'assassinat d'un journaliste ciblé par les narcotrafiquants, il y a généralement, par exemple, toute l'enquête qui est derrière. Et le signal envoyé très clair à la profession en disant « si on a pu tuer celui-là, on ne peut en tuer d'autres » et par voie de conséquence, le sujet qu'il a traité, en règle générale, c'est ce qui l'a amené à se faire assassiner. Donc derrière chaque assassinat de journaliste, vous avez des dossiers, des enquêtes, des choses qui sont généralement d'utilité publique et qui tombent dans l'oubli. Donc la lutte contre l'impunité que l'on fait, les baromètres qu'on essaye d'indiquer, sont autant d'indicateurs aussi du niveau de possibilité des gens de disposer d'une information sur des choses qui leur sont souvent proches. Ça, c'est des questions d'écologie, c'est des questions de santé publique. Par exemple, on a milité beaucoup pour le prix Sakharov 2008, Oudia, son seul crime pendant 3 ans et demi de prison pour avoir juste enquêté sur les problèmes d'environnement et de sida, qui sont quand même pas des choses ultra corporatistes, mais qui encore une fois passaient par justement des vecteurs. Donc oui, je suis d'accord avec les gens, il n'y a pas de corporatisme de notre part, nous sommes une organisation non gouvernementale, on est ouvert à toute adhésion, pas seulement aux journalistes, parce que justement, je vous le disais au départ, on part du principe que si les médias, oui, sont bien l'affaire des journalistes, le droit d'informer, lui, n'est pas l'apanage des journalistes. Donc, par voie de conséquence, il est normal que chacun puisse s'en saisir aujourd'hui, sans justement considérer que la disparition ou la mort est importante. Mais le signal envoyé par un État quand il le fait a des conséquences bien plus graves encore au niveau de la capacité justement à ce que le reste du monde continue à s'intéresser. On a vu sur l'Égypte lors de la Révolution, quand tout d'un coup on arrêtait énormément de journalistes, tout spécialement les caméramans, etc., et bien beaucoup de gens se disaient on ne va pas envoyer des gens en Égypte, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Et donc du coup on va se retrouver avec des pays comme l'Érythrée, avec des pays comme la Somalie, où vous avez pratiquement plus personne qui y va, plus aucune image, un blackout de fait de l'information organisée par cette voie-là, par le seul fait que la pression sur les journalistes ou que la pression sur la profession d'informer a été suffisante pour faire en sorte que justement on n'y aille plus et qu'on soit obligé de compter sur l'investissement d'un tout un ensemble de nets citoyens au demeurant parfaitement respectables et qu'il faut soutenir, mais qui en même temps sont confrontés à des tas de pressions qui ne sont pas directement liées à leurs activités, ne sont pas directement liées à leurs activités professionnelles. Il y a aussi une plus-value dans le journalisme qui est utile à la compréhension globale, à recontextualiser et à poser justement quelque chose d'un peu plus complexe qu'un commentateur sur Internet ou qu'un blogueur qui est une source d'informations utiles et nécessaires, et Dieu sait si la presse utilise aujourd'hui ces sources d'informations dans beaucoup de pays parce que ce sont les seuls qui sortent, mais en même temps, derrière, le rôle du professionnel reste extrêmement important et les conséquences, encore une fois, lorsqu'ils sont visés, dépassent de très loin leur seule personne.
Olivier Basile, merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Reporters sans frontières.